Il est 18h sur France Culture, passé d'une poignée de secondes, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Des tirs de gaz lacrymogène face au jet de pierre de Sénégalais en colère après le report de l'élection présidentielle annoncée hier par le président Macky Sall. Des centaines d'hommes et de femmes ont manifesté à Dakar cet après-midi avant d'être dispersés par la police. Ce séisme politique inédit au Sénégal inquiète la communauté internationale après les multiples coups d'État survenus en Afrique ces dernières années. Le Chili continue de brûler. Après une courte accalmie, les violents incendies ont repris, notamment dans la région très touristique de Valparaiso, où 64 personnes ont été tuées d'après un bilan encore provisoire. Et puis les états généraux de l'information censés garantir le droit à une information fiable et indépendante accoucheront-ils d'une souris ? Les citoyens chargés de plancher sur la question à Paris dévoilent ce soir leur première proposition. Les premières heures ont éclaté dans les rues de Dakar ce soir, alors que plusieurs centaines de Sénégalais ont fait entendre leur colère face au report de l'élection présidentielle, un report annoncé hier par le président Macky Sall et perçu comme l'opposition comme une régression démocratique dans le pays d'Afrique de l'Ouest, secoué en juin dernier par de violentes manifestations après la condamnation d'Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition. Et cette nouvelle manifestation aujourd'hui, Antoine Gignot, a donné lieu à des affrontements.
Absolument. Au milieu des rues, ce sont des poubelles qui brûlent, des palettes de bois, des pneus et ces rues du quartier Liberté 6 qui sont en train de disparaître sous une épaisse fumée noire, à fumée qui se mélange au gaz des grenades lacrymogènes. Un peu partout, de petits groupes de manifestants se dispersent, lancent des pierres, bloquent les routes, agitent le drapeau du Sénégal avec ce slogan « Macky Sall, dictateur », des jeunes, majoritairement des hommes, mais quelques femmes aussi dans les rues. « Impossible de rester sur mon canapé », lance Aminata, fonctionnaire du gouvernement. Elle dénonce la situation et précise « si je dois mourir, ce sera pour le Sénégal ». Derrière elle, plusieurs candidats escortés tentent de quitter le quartier, parlent de déposer dès demain un recours auprès du Conseil constitutionnel pour attaquer le décret présidentiel qui reporte l'élection. Le code électoral sénégalais précise que la date d'un nouveau scrutin doit être fixée au plus tard 80 jours avant le déclenchement du vote, ce qui signifie que le président Macky Sall pourrait être encore à son poste le 2 avril prochain, après donc la fin de son mandat. C'est ce qui fait dire à l'ensemble de l'opposition qu'il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. Reste à savoir la réaction de la rue dans les heures qui viennent.
Antoine Gignot en direct de Dakar pour France Culture. Cette crise politique au Sénégal inquiète la communauté internationale. L'Union européenne appelle tous les acteurs à œuvrer à la tenue d'une élection transparente, inclusive et crédible dans les meilleurs délais. Même demande faite par la France quand les États-Unis se disent profondément préoccupés, car c'est la première fois depuis l'indépendance du Sénégal en 1960 que la présidentielle est reportée. Le pays n'a jamais connu de coup d'État, contrairement à ses voisins. En 4 ans, 6 pays du continent ont vu leur leader renversé. Un climat régional qui a des répercussions aujourd'hui au Sénégal, analyse le journaliste Antoine Glaser, ancien rédacteur en chef de la Lettre du Continent.
Il y a quand même un climat général avec une montée comme ça de souverainisme et de panafricanisme dans la jeunesse africaine qui considère que maintenant, ce qu'ils appellent leur candidat au Sénégal, Ousmane Sonko, anti-système, ils voudraient passer à autre chose. Et le fait de voir finalement ces gens se maintenir au pouvoir, on sent il y a ça fermente. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest en particulier, il y a quand même une montée comme ça de ressentiment sur le plan politique, une des volontés de changement de souverainisme avec les 3/4 de la population il y a moins de 25 ans. Et il y a quand même un climat général qui peut favoriser ce qui s'est passé quand même. Il y a eu des mutineries en 2021 et il y a aussi des crises avec des manifestations extrêmement violentes en juin 2023. Qui peut dire demain ce qui va se passer dans les casernes s'il y a vraiment des crises et si on oblige ces militaires à réprimer des jeunes et des manifestations comme ça a été le cas en 2021-2023. C'est très difficile à dire actuellement.
Antoine Glaser, invité de nos confrères de France Inter. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Proche-Orient ce soir pour une nouvelle série de tractations sur une possible seconde trêve entre Israël et le Hamas. Une trêve dont la perspective semble encore lointaine après les multiples frappes de l'armée israélienne ce week-end. En premier lieu à Rafah, dans le sud de l'enclave, là où s'entassent 1 300 000 personnes d'après l'ONU. D'après le ministère de la Santé du Hamas, au moins 127 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. 64 personnes tuées, 43 000 hectares partis en fumée et plusieurs milliers d'habitations détruites. Le bilan continue de s'alourdir au Chili, en proie à de violents incendies les plus meurtriers depuis 10 ans. Des incendies fréquents durant l'été, mais aggravés cette année par une canicule liée au changement climatique et à El Niño. Ce phénomène qui se produit tous les 2 à 7 ans et modifie la circulation atmosphérique. Le sud du pays et aussi et surtout le centre du pays, très touristiques, sont particulièrement concernés par ces incendies. Et Neila Derouane, selon les autorités chiliennes, certains feux pourraient avoir été allumés de manière intentionnelle.
Dès hier soir, le président Gabriel Boric parlait déjà de feux allumés volontairement. Il y a quelques heures à la télévision, le gouverneur de la région de Valparaíso soutenait également cette thèse. Les incendies se sont transformés en homicides, dit-il. L'Office national des forêts nous a indiqué que cette nuit, 4 foyers ont été allumés intentionnellement, a-t-il détaillé avant d'ajouter.
Nous ne savons pas si c'est une bande organisée, nous ne savons pas si sont pyromanes.
On ne sait pas s'il s'agit d'une bande organisée ou si ce sont des pyromanes. Ce sera à la justice de le déterminer, conclut-il. Sur les collines et les alentours de Viña del Mar, l'une des communes les plus touchées, le paysage est désolant. Il y a de la fumée et des cendres partout. Des centaines de maisons ont été éventrées par le brasier. Il ne leur reste que quelques murs noircis qui tiennent encore debout. Les familles qui ont perdu leur logement sont accueillies dans des centres d'hébergement d'urgence et petit à petit, elles retournent voir leurs habitations pour commencer à ramasser les débris. Le couvre-feu installé hier dans 4 communes sera maintenu ce soir pour désengorger les routes et faciliter les évacuations et la circulation des secours qui restent mobilisés car plusieurs incendies sont toujours actifs.
Neila Derouane, correspondante de France Culture au Chili. 2 des mesures annoncées par le gouvernement pour venir en aide aux agriculteurs entreront en vigueur dès demain. Les premiers décrets ont été publiés aujourd'hui au journal officiel. L'un d'eux concerne le gasoil non routier, le remboursement partiel de la taxe sur les produits énergétiques que les agriculteurs pourront demander dès ce mois-ci. Le second décret porte sur les indemnisations aux éleveurs bovins touchés par l'épidémie de maladies hémorragiques épizootiques. Et dans ces concessions donc faites aux agriculteurs cette semaine, l'exécutif balaye tout recul écologique. Malgré la suspension temporaire du plan Ecophyto visant à réduire de 50% les usages de pesticides d'ici à 2030, une pause, non pas une marche arrière, assure Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture aujourd'hui. Le plan Ecophyto sera revu d'ici 3 semaines et le Salon de l'Agriculture promet quant à lui Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, selon qui il est hors de question qu'il y ait un recul qui menace la santé ou la biodiversité. Cette pause vise seulement à redéfinir l'indicateur de mesure de l'usage des pesticides, assure les ministres. Un gouvernement qui devrait être étoffé dès cette semaine. De nouvelles nominations de ministres délégués et de secrétaires d'État devraient être annoncées demain ou mardi. Et la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, confrontée à une série de polémiques depuis le remaniement, devrait conserver sa place au gouvernement. Elle a en tout cas la confiance de l'exécutif, assure ce soir la ministre chargée des relations avec le Parlement, Marie Lebec. Une centaine de citoyens réunis pour le 2e week-end consécutif au Conseil économique, social et environnemental à Paris. Leur rôle, élaborer des recommandations dans le cadre des états généraux de l'information souhaités par Emmanuel Macron. Des propositions qui doivent déboucher en juin prochain sur des traductions législatives ou réglementaires. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir Julie.
Alors l'ambition de ces états généraux est de renforcer la confiance dans les médias. Quelles sont les pistes évoquées par ces citoyens?
Alors elles sont d'abord nombreuses à porter sur l'éducation aux médias avec une proposition forte, la création d'un passe-presse pour les 13-25 ans. Objectif, offrir aux jeunes un abonnement au titre de presse de leur choix. Autre grand thème des débats de ces week-ends, la gouvernance des médias. Les participants insistent pour intégrer davantage les citoyens dans cette gouvernance et pour cela, ils proposent par exemple une représentation citoyenne à l'ARCOM, l'autorité chargée de réguler les médias. Autre proposition, ouvrir l'actionnariat des médias à leurs lecteurs ou aux auditeurs. Et puis dernier grand thème des discussions, la régulation des contenus sur les réseaux sociaux et dans les médias. Comment lutter contre les fausses informations et les contenus haineux? Un groupe propose d'élargir les possibilités de sanctions de l'ARCOM. Un autre groupe, lui, avance la création d'un score de fiabilité pour tous les contenus en ligne sur le modèle du Nutri-Score. Alors, qui sera chargé de l'établir? Est-ce qu'il s'appliquera à tous les médias? Le compte-rendu ne va pas jusqu'à ce niveau de détail et c'est d'ailleurs là la limite que certains apposent à l'exécutif. exercice. La plupart des propositions restent très généralistes parce que les citoyens, et ils l'ont rappelé souvent dans leurs débats, ne sont pas des experts. Ça sera au comité de pilotage des États généraux de retenir ou non ces propositions et de fournir plus de détails techniques. Un regret pour certains participants qui auraient aimé avoir plus de temps pour élaborer des propositions précises sur le modèle de ce qui avait été fait en 2019 lors de la Convention citoyenne pour le climat.
Jeanne Serra, un mot de météo demain avec un temps calme et gris au nord, un soleil plus franc sur le sud, comptez 4 degrés à Bourges et Bordeaux et au réveil 10 degrés à Marseille. L'après-midi, les températures afficheront en moyenne 8 à 13 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetot.